Durant l'année scolaire 2025-2026, 25 élèves ont participé à un projet historique et mémoriel encadré par Nadia Mounir, Frédéric Margarito et Dimitri Vouzel. Le thème du projet était « Shoah et justice ». Le groupe a travaillé sur des archives locales et nationales et a participé à un voyage d'études qui les a menés d'Insert-SS-Sonderlager à Nuremberg, Mittelbau-Dora et Bergen-Belsen.
Au camp de Bergen-Belsen, on trouve la pierre tombale d'Anne Frank et de sa sœur Margot. Mais qu'en est-il de celle d'Ellenberg et de celle de tant d'autres morts assassinés dans ce camp nazi? C'est le camp lui-même qui leur sert de tombe, un mémorial à ciel ouvert. Et si nous évoquons Ellenberg aujourd'hui, c'est parce que, comme Anne Frank, cette toute jeune femme juive est déportée et morte à Bergen-Belsen quelques jours avant la libération du camp. Mais que surtout, comme elle, elle tient un journal dans lequel elle narre au quotidien son existence et témoigne de ce qu'elle voit dans le Paris de l'occupation. Ellenberg est une étudiante en littérature anglaise, issue de la bourgeoisie française israélite. Elle aime les livres, la musique, la nature, la vie simple à Aubergenville, la maison de campagne de sa famille. Elle apprécie les plaisirs élémentaires, comme la cueillette de fruits, de l'eau, le soleil. Mais victime des décrets antisémites de Vichy, sa vie bascule, comme celle de tous les juifs en France. Pour elle, cela commence par le fait de ne pas avoir le droit de se présenter à l'agrégation d'anglais. Elle devient alors secrétaire d'une association juive clandestine, l'Entraide temporaire, et assistante sociale bénévole à l'UGIF, Union Générale des Israélites de France. Elle aide au placement des enfants pourchassés chez des nourrices en Saône-et-Loire. On comprend dès lors l'altruisme d'Hélène, son courage, sa générosité, son sens de l'engagement. Comme tous les juifs, et toujours selon les décrets antisémites de Vichy, elle doit porter l'étoile jaune. Elle raconte tout cela dans son journal qu'elle commence à écrire le 7 avril 1942. Ainsi, nous pouvons lire dans son journal le 29 mai 1942.
Chez Madame Jourdan, nous avons discuté la question de l'insigne. À ce moment-là, j'ai décidé à ne pas la porter. Je considérais cela comme une infamie et une preuve d'obéissance aux lois allemandes. Ce soir, tout a changé à nouveau. Je trouve que c'est une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis de ceux qui le feront.
Et le 8 juin, elle sort pour la première fois avec l'étoile cousue sur sa veste. Elle écrit alors
« Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. »
Ellenberg est donc une jeune femme engagée.
« Je sais maintenant que c'est de la lâcheté. On n'a pas le droit de ne penser qu'à la poésie sur la terre. C'est une magie, mais elle est suprêmement égoïste. »
écrit-elle dans son journal. Il est ainsi nécessaire pour elle de témoigner pour le futur.
« Je note les faits hâtivement, pour ne pas oublier, parce qu'il ne faut pas oublier. »
Dans ses pages du 10 octobre 43, elle dit également
« J'ai un devoir à accomplir en écrivant, car il faut que les autres sachent. »
Et aussi
« Il faudrait donc que j'écrive pour pouvoir plus tard montrer aux hommes ce qu'a été cette époque. »
Son journal n'a pas de destinataire précis à son début. Il faut attendre le 25 octobre 1943 pour y trouver un destinataire. Jean Morwecki, son amoureux.
« Je sais pourquoi j'écris ce journal. » Je sais que je veux qu'on le donne à Jean si je ne suis pas là lorsqu'il reviendra. Je ne veux pas disparaître sans qu'il sache tout ce que j'ai pensé pendant son absence, ou du moins une partie.
Jean est un jeune homme catholique qui quitte Paris pour entrer dans la résistance, les FFL, Force Française Libre. Il se voit pour la dernière fois, le 8 novembre 1942. C'est à lui que l'on remettra le journal d'Hélène, selon son souhait, à la fin de la guerre. Cette séparation est une nouvelle épreuve dans la vie d'Hélène. L'arrestation de son père le 23 juin 1942 est la première séparation douloureuse vécue. Son père, interné à Drancy, sera finalement libéré contre le versement d'une caution. On lit alors dans le journal la solitude d'Hélène, ses peurs, ses pressentiments. Son journal évoque aussi brutalement la rafle du Veldiv du 16 et 17 juillet 1942. La veille, Hélène écrit
« Quelque chose se prépare, quelque chose qui sera une tragédie, la tragédie peut-être. »
Tous ces malheurs pèsent sur le cœur de la jeune femme qui interrompt son journal le 28 novembre 1942 et ne le reprend qu'en août 1943. Cette deuxième partie du journal marque la souffrance toujours plus grande d'Hélène, sa solitude face à l'attentisme et l'indifférence de beaucoup de Parisiens, mais aussi à sa résistance.
Maintenant, je suis dans le désert. Personne ne le saura parce que j'ai continué à vivre et à agir. Mais il n'y a pas une de mes pensées profondes, une de mes pensées où je me sentais réellement moi, qui n'ait été une source de souffrance. Je n'ai pas encore souffert dans mon corps et Dieu seul sait si cette épreuve m'attend. Dans mon âme, dans mes affections et du point de vue général, j'ai vécu et je vis dans une peine perpétuelle.
Les dernières pages du journal, à la date du 15 février 1944, évoquent Drancy, par lequel elle passera avant le départ pour Auschwitz le 27 mars 1944, jour de ses 23 ans. Hélène et ses parents sont en effet arrêtés à leur domicile parisien le 8 mars 1944. Dans ces dernières pages du journal, dernière page avant leur arrestation, on lit la peur d'Hélène Baer et son pressentiment du pire.
A-t-on faim, dans cette atmosphère qui doit être étouffante, l'odeur des seaux, l'odeur humaine, pas d'aération, j'imagine, et les crampes, tout le monde ne peut pas se coucher ni s'asseoir à 60 dans un wagon, là-dedans des malades ou des vieillards.
Les derniers mots de son journal font écho à tout ce qu'elle a vécu.
Aurore, aurore, aurore.
Cette citation rappelle d'abord Macbeth, une œuvre de Shakespeare où Macduff s'exclame de la même manière à l'acte 2, scène 3, ce qui peut nous rappeler qu'elle est étudiante en littérature anglaise. Cela peut aussi nous faire penser à Kurtz, dans le roman Au cœur des ténèbres, qui est une des nombreuses lectures d'Hélène. Cette dernière phrase montre tout ce qu'elle a pu vivre. Toutes les horreurs traversées, les camps, la perte de certains proches et le destin tragique qu'elle connaît un an plus tard. Évacuée d'Auschwitz où ses parents sont morts, Hélène quitte le camp le 31 octobre 1944. Devant l'avancée des soviétiques, elle arrive à Bergen-Belsen le 3 novembre 1944 où elle contracte le typhus. Trop affaiblie pour se lever au moment de l'appel matinal, elle est battue à mort par une gardienne le 10 avril 1945. Pendant plus de 60 ans, son manuscrit est resté dans un tiroir. Jean, ambassadeur de France en Équateur, remet le manuscrit original du journal à la famille d'Hélène dans les années 90, manuscrit qui sera alors offert au mémorial de la Shoah à Paris. Il ne sera publié qu'en 2008. Le journal d'Hélène nous a permis de découvrir une jeune femme sensible, courageuse, qui aimait la vie et l'humanité. Grâce à son journal, Hélène Baer est encore vivante. On entend sa voix, on entend son cri.
Je veux rester encore, pour connaître à fond ce qui s'est passé cette semaine. Je le veux pour pouvoir prêcher et secouer les indifférents.
C'est une mission accomplie de son journal dont on ne peut ressortir indifférent.
Réflexions, émotions, recueillements ont été les ressorts du projet. Au terme de celui-ci, les élèves et leurs enseignants sont désireux de continuer à promouvoir le devoir de connaissance. Nous tenons à remercier les institutions et les partenaires qui nous ont soutenus, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Souvenir français, le ministère des Armées et Radio Shalom.